cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 21 février 2001 à Saint-Jean-d'Arc.
Après avoir vu, découvert, mettre en acte comme ce qui est le terme de la considération de l'être en tant qu'être, ce qui fait partie de la ratio intis, de la conception de l'être, l'analyse que nous faisons pour saisir la substance et l'acte, c'est pour mieux saisir ce qu'est l'être, donc la ratio intis. Et pour mieux saisir l'être en acte, étant donné que pour notre intelligence, la saisie de l'être en acte est une chose très subtile, parce que toujours, le point de vue de la finalité est toujours très subtil à saisir. Saisir ce qu'est cette attraction de la fin sur nous. Il était bon de voir comment l'être en acte se donne à nous dans l'esprit, l'intelligence et la volonté. Notre vie est à son sommet dans l'intelligence, dans la volonté. Mais pas l'être. Voyez, c'est toujours cette très grande difficulté que nous avons de dépasser par l'intelligence l'intelligibilité de la vie. Nous allons voir du reste maintenant. Il y a en nous l'esprit. Notre âme nous fait vivre une vie spirituelle. Cette vie spirituelle de l'intelligence et de l'amour. Que signifie, au point de vue de l'esprit, l'être en acte? Autrement dit, comment comprendre la vérité qui est qualité de notre intelligence, la vérité formelle et le vrai ontologique. Et l'intelligence dans l'appréhension ne saisit pas le vrai, la vérité formelle. Elle n'est pas vraie. Elle est ce qu'elle saisit, c'est par le jugement, et c'est dans le jugement à sa fine pointe, c'est le jugement d'existence. Ceci est. C'est la saisie de la réalité. C'est mon jugement qui me permet de sortir de l'intentionnalité de l'appréhension. Dans l'appréhension, j'assimile et je demeure dans l'intentionnalité. C'est ce qu'il y a de très grand à l'assimilation. Mais c'est ce qu'il y a de très dangereux aussi. Parce qu'alors, si facilement, on confond ce qu'on a connu, ce qu'on a saisi, avec le vrai, la vérité. Toujours le même problème, la vérité, la sincérité. Il faut vraiment arriver à saisir ça métaphysiquement, hein. Voir la différence entre la vie et l'être. c'est rude, c'est pas commode. Mais si on ne saisit pas en philosophie, c'est-à-dire pendant vos études de philosophie, vous ne saisirez jamais dans votre vie. Et vous resterez dans l'ontologisme. Et vous ne comprendrez pas ce que l'Église nous enseigne dans l'encyclique de Saint-Père. Et il y a une fidélité à l'Église, là. Il y a la fidélité à notre intelligence, c'est fondamental. La recherche de la vérité, c'est d'être fidèle à notre intelligence. C'est-à-dire vouloir que notre intelligence puisse respirer, notre intelligence puisse sortir de ce que nous connaissons pour atteindre le réel. Le réel est antérieur à moi. Dieu est antérieur à moi. Et l'univers est antérieur à moi. Je suis né dans un univers. Et cet univers est antérieur à moi. Tandis que si je reste dans mon assimilation, dans mon vécu, n'existe que ce que je connais. Vous voyez, le monde est restreint à ce qu'on connaît. La réalité du monde n'est pas restreinte à ce que je connais. Je découvre un être qui est antérieur à moi. Ce n'est pas moi qui donne l'existence à ce que je connais. La réalité existe avant que je la connaisse. C'est pas commode de pouvoir dire ça en toute vérité. Et vous voyez que c'est le fondement de l'humilité. De se soumettre à la réalité. Se soumettre à la réalité, c'est pouvoir comprendre que la réalité est antérieure à moi. Ça paraît très bête, hein, et très facile de dire ça. C'est pas commode. Parce que dans l'orgueil, on a la tentation permanente de considérer que la réalité n'existe qu'en fonction de ma connaissance. Autrement dit, par ma connaissance, je connais la réalité, donc elle est pour moi, mais elle était avant moi. Je cherche maintenant ce qu'est l'être en acte dans le vivant. Le vivant, pour moi, c'est ma vie végétative. Je suis un grand vivant quand je mange très bien. Un grand chêne. Vie végétative. Je dors bien. Je suis très éveillé pendant la journée. Je me nourris bien. Tout va bien. Un équilibre de la vie végétative. Tandis que je dors mal. Je mange mal. Je digère mal. Rien ne va plus. Le fondement de ma vie, c'est la vie végétative. Et j'y reviens tout le temps. Je n'oublie jamais ma vie végétative. Quand je prétends l'oublier, ça prouve qu'elle est toujours là. Et celui qui nie la réalité de son corps, qui ne veut pas accepter la réalité de son corps, dans mon corps est mauvais. Le manichéisme. Qui ressort dans toutes les périodes de famine. De famine spirituelle. Et le sensible, le corps est mauvais, c'est mal. Le mal vient de là. Pas du tout. Le corps comme tel n'est pas mauvais. La chair humaine n'est pas mauvaise, puisqu'elle est unie à Dieu. Elle n'est pas mauvaise. C'est moi qui rends mon corps mauvais. C'est parce que je le considère sous un certain aspect en opposition avec l'esprit. Or, mon corps n'est pas en opposition avec l'esprit. Il est un moyen pour moi d'atteindre l'esprit. Donc, il y a d'abord la vie végétative. Puis, il y a la vie sensible. Vous avez vu ça dans la philosophie du vivant. Alors, ne faisons pas la philosophie du vivant ici. Nous regardons au plan métaphysique. C'est un regard métaphysique sur la vie. Tandis que quand vous faites la philosophie du vivant, vous regardez le vivant pour lui-même. Et vous regardez l'homme dans sa vie végétative, dans sa vie animale, dans sa vie spirituelle. Vous savez, chacun d'entre nous, nous avons cette vie végétative. On se rassemble pour le petit déjeuner. Pour dormir, on est ainsi individuel. Parce que quand on dort dans un dortoir, il suffit qu'il y en ait un qui ronfle pour m'empêcher de dormir. Il y en a un qui dort avant et qui ronfle. Alors il voit que tous les autres sont en suspens vis-à-vis de son ronflement. Dormir, c'est l'individualité de la vie végétative qui s'affirme avec force. Nous sommes des individus radicalement et fondamentalement dans notre vie végétative. La vie végétative a un comportement terriblement égoïste. Et c'est du reste pour ça que, quelquefois, on ne l'aime pas. Il ne faut pas. C'est pas comme ça qu'on l'adresse. Il faut l'aimer, mais la tailler. Un arbre, on le taille. La vie végétative, on la taille. On ne laisse pas tout pousser. Parce que si on laissait tout pousser, la vie végétative, au bout d'un certain temps, prendrait toute la place. Parce qu'elle a une priorité. J'étais d'abord un être purement végétatif. Dans le sein maternel, purement végétatif. Puis, le sensible s'est éveillé. Et j'étais un être très sensible, très affectif, comme un petit chien. Il y a des petits chiens qui sont très affectifs. Il y a des chats qui sont terriblement affectifs, en attendant le coup de patte. Et puis, ensuite, mon intelligence s'est éveillée, ma raison s'est éveillée. J'étais un être rationnel. Et quelquefois, elle s'est éveillée d'une façon telle que je n'ai jamais dépassé ma raison. C'est très curieux. Il y a des êtres qui ne dépassent jamais leur vie végétative. Il y a des êtres qui ne dépassent jamais leur vie sensible. Il y a des êtres qui ne dépassent jamais leur vie rationnelle. Et puis, il y en a qui s'éveillent à l'intelligence. Et la philosophie est faite pour vous rappeler qu'il faut s'éveiller à l'intelligence. À Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la vie végétative? Quel est l'être en acte dans la vie végétative? Je suis un être en acte par ma vie végétative. Mais la vie végétative est un être très matériel, hein? Très matériel. La finalité de la vie végétative, qu'est-ce qu'elle est? La procréation. C'est la vie végétative qui est source d'une autre vie. Vous voyez, d'une autre vie, de même espèce. Dans la vie végétative, vous restez dans votre espèce. Et votre acte de source d'un autre être, c'est source d'un autre être semblable à la vie végétative. Et donc vous demeurez dans votre espèce. Vous n'en sortez pas. Et un arbre est source d'un autre arbre, de même espèce. Dans l'arche de Noé, on n'avait pas mis les espèces de la vie végétative, hein, les arbres, les plantes, l'herbe, les oignons, les tulipes, végétatives, la tulipe en géant dans la tulipe. L'acte de la tulipe, c'est d'engendrer un autre semblable à lui-même. Ça ne va pas plus loin. Hein? La vie végétative est terriblement conservatrice. Elle engendre un semblable à lui-même. Et elle est heureuse d'engendrer un semblable à lui-même. Les Grecs voyaient cette chose très belle que par la procréation, au niveau végétatif, on lutte contre la mort, parce que l'espèce continue. Et donc, c'est comme on porte en soi comme un appel à l'éternité, parce qu'on continue dans le fiston. Le gros chêne continue grâce au gland qui fait pousser le petit chêne. Et il est heureux, le chêne est heureux de survivre dans le petit chêne. Parce qu'il pourra disparaître, mais ça continuera l'espèce. Il faut bien voir ça. La vie végétative est conservatrice, fondamentalement. Et donc, elle a cette espèce de, j'allais presque dire, de jalousie. Elle n'est pas consciente, hein. C'est évident, elle n'est pas consciente. Cette espèce d'accaparement. La vie végétative est terriblement accaparante. Parce que se nourrir, c'est l'assimilation. On transforme ce qu'on prend comme nourriture dans la terre, dans les minéraux, ça devient le vivant. Voyez comme un arbre pousse. C'est terriblement captatif un arbre. Regardez dans les forêts, c'est amusant à voir. Il y a toujours un qui veut lutter pour que l'autre, le voisin, le petit frère à côté ne pousse pas trop vite, qu'il laisse tout pousser. Enfin, laisse-moi pousser, on écarte pour que je puisse vivre. l'acte de la vie végétative est un acte immanent. C'est l'entelekeia. On demeure dans sa fin, et sa fin, c'est se transmettre à l'autre. Il y a une finalité dans la vie végétative qui est terriblement forte. La finalité de l'espèce. Oui. C'est pas étonnant qu'on ait et qu'on soit tellement pour l'évolution. L'évolution lutte contre cette immanence du vivant. Cette immanence du vivant dans son espèce. Il demeure dans son espèce. Alors, par l'évolution, on dit que non, il va changer d'espèce. Et vous savez bien que la théorie d'évolution, actuellement, est en régression. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus prudent. On voit qu'il y en a, en effet, le vivant demeure dans son espèce. Dans la vie végétative pure. Au fond, l'évolution sera par l'esprit. C'est l'esprit qui veut l'évolution. La vie végétative, c'est l'immanence. L'acte est immanent. Et reste chez le voisin, chez le fruit, le même. Même espèce. Très curieux de voir ça. Les êtres les plus révolutionnaires, quand ils engendrent, vont contre la révolution. C'est curieux. La vie végétative n'est pas révolutionnaire. Elle est au contraire terriblement conservatrice. Parce que on ne veut pas sortir de son espèce. On engendre, c'est-à-dire l'acte ultime est immanent. Il y a une immanence de la finalité. La finalité n'est plus au-delà, elle est au-dedans. Et elle demeure au-dedans. Alors, le principe et la fin demeurent dans la même espèce. C'est extraordinaire de voir ça. Et ça, c'est la vie végétative. C'est la vie numéro un. Le Fils aîné en nous, c'est la vie végétative. Hein. C'est pas étonnant que de temps en temps, il a des colères quand on soigne trop bien l'intelligence. Qui galope dans tous les sens et qui n'est pas très conservatrice. Elle aime bien d'inventer et de pouvoir être première. Et la vie végétative, elle est conservatrice. C'est très important de comprendre ça, de voir que l'acte dans la vie végétative est immanent. Parce que si vous regardez certaines théories idéalistes où on considère que ce qui est connu est la réalité. On retrouve l'immanence de la vie végétative dans la vie de l'esprit. Je m'explique, hein. La vie végétative a ce privilège qu'elle est la vie la plus radicale. C'est la première vie. La vie se manifeste d'abord dans la vie végétative, ça c'est sûr. Par le fait même, elle nous manifeste des lois très primitives, paix radicale qui se retrouve tout le temps. Mon intelligence, je peux la considérer de deux manières. Je peux considérer la vie de mon intelligence et l'intelligence comme telle. Parce qu'il y a les deux. Mon intelligence n'est pas substantielle. Donc, elle n'est pas uniquement intelligence. Mon intelligence s'enracine dans un vivant qui n'est pas totalement intelligent. Vous êtes de temps en temps intelligent. Et quand vous dormez, vous n'êtes pas intelligent. Quand vous prenez un bon verre de vin, vous n'êtes pas intelligent. Vous goûtez. Toute votre vie est dans le goût. Bon. Vous voyez très bien cela, l'étonnement du maître du repas à Cana. Ce vin-là, qu'est-ce qu'il est ? C'est pas intelligent, ça. C'est tout simplement habitué à boire toute espèce de vin et de reconnaître. Et ce qu'il cherche, c'est de reconnaître le vin. Donc, mon intelligence, elle est vie avant d'être intelligence. Il ne faut jamais oublier ça. Et très souvent, je demeure au niveau vie. Et je retrouve dans l'intelligence les lois fondamentales de la vie végétative. L'accaparement, la jalousie, tout ramener à moi, de peur que ça s'en aille. Exactement comme la nourriture. Je prends vite. Pour qu'un autre ne le mange pas. Alors on accapare. Voyez, l'intelligence humaine peut être regardée sous différents points comme intelligence. Alors à ce moment-là, c'est l'intelligence relative à l'être. Je peux regarder l'intelligence comme intelligence humaine, c'est la raison. L'intelligence regarde la relation. La communication. Celui qui est très fort dans les communications est très fort dans l'intelligence humaine. Mais pas l'intelligence. Dieu. Les communications ne me disent rien sur Dieu. Le TGV est merveilleux dans les communications, mais il ne m'apporte aucune connaissance sur Dieu. C'est bien évident. Et je ris toujours plus vite. Et je croirais que par la vitesse j'atteindrai Dieu. Je ne pourrais pas atteindre Dieu par la vitesse. Sûrement pas. Et puis, je considère l'intelligence comme puissance, faculté vitale. C'est dans l'intelligence que la vie est le plus elle-même. Donc, je suis plus vivant par mon intelligence que par ma vie végétative. Quand je vois un vivant qui se nourrit magnifiquement, je me dis, oui, moi je me nourris magnifiquement dans ma contemplation. Dans ma contemplation, c'est Dieu qui se donne comme nourriture. Et donc, la vie de l'intelligence, comme vie, est très forte. La vitalité d'un être spirituel est plus forte que tout le reste. Mais l'intelligence, du moins la vie de l'intelligence, demande d'être bien ordonnée. Je peux ordonner mon intelligence uniquement dans l'ordre de la vie. j'ai loi de la vie végétative qui se retrouve dans l'intelligence. Et qui se retrouve dans l'intelligence au carré. Bien plus qu'au carré. Infini. Je suis devant un ogre. Il y a des ogres au point de vue de l'intelligence. Il y a des requins au point de vue de l'intelligence. C'est très important de voir ça. Et l'être en acte me fait comprendre cela. Que ma vie végétative, elle est en acte dans l'immanence. Et je ne sors pas de l'immanence de l'espèce. Et par le fait même, je n'atteins jamais l'énergaya. Je n'atteins jamais le point de vue de la fin autre que moi, supérieur à moi. J'atteins l'entelekeya. Je demeure dans ma faim. J'allais presque dire, je mange ma faim. Oui. Se nourrir de sa faim, alors, faim est fienne, hein, telos. Se nourrir de sa faim, c'est terrible. On devient un monstre. Hitler se nourrissait de sa faim. Et certaines philosophies se nourrissent de leur faim. Alors vous voyez, c'est la grenouille qui veut devenir aussi grosse que le bœuf. C'est l'intelligence humaine qui est intelligente, mais à la place de regarder ce qu'est l'intelligence, elle regarde ce qu'est la vie dans l'intelligence. Et regarder la vie dans l'intelligence, c'est monstrueux. Parce que c'est vouloir ramener ce qui est supérieur à l'inférieur. La vie peut être végétative, elle est radicalement végétative. Si dans ma vie intellectuelle, je ne m'intéresse qu'à la vie, je regarderai que l'aspect végétatif de l'intelligence. Et l'aspect végétatif de l'intelligence, c'est terrible, c'est monstrueux, c'est le requin. Et on mange sa faim. Réfléchissez là-dessus. Manger sa faim. C'est-à-dire ramener ce qui normalement me permet d'avancer et d'aller au-delà de ce que je suis. La faim, c'est quelque chose de supérieur à moi. C'est quelque chose qui m'attire et qui me permet de sortir de moi. Je la ramène à moi. Et je ne l'accepte que dans la mesure où je la ramène à moi. Donc c'est très très important de regarder la vie végétative dans un regard métaphysique. Regarder la vie dans ce qu'elle a de radical, de fondamental, et ses lois propres. Les lois propres de la vie végétative, c'est facile à comprendre. Puisque plusieurs fois par jour, vous avez le nez dans votre assiette. Hein ? Vous voyez ? Donc, vous mangez. Et donc, ce qui est l'aliment devient vous. Et ça sans scrupule, hein. Et vous avez raison, c'est pas scrupule. Parce que vous n'allez pas à midi, oh, je vais réfléchir. C'est effrayant ce que je fais. Non, la vie végétative, elle est normalement comme ça. Et vous, ce qui est très curieux, vous le voyez dans la manière dont Dieu nous éduque. La première éducation, c'est la vie végétative. Et qu'est-ce que vous faites comme première éducation? C'est de mettre un ordre dans la vie végétative. Vous mettez un ordre. Un ordre, c'est l'intelligence. La vie végétative n'est pas. Elle est ordonnée selon l'instinct chez l'animal et chez l'homme. La première éducation, c'est d'apprendre à l'enfant de manger à telle heure. Entre deux, il ne fait rien. Il crie, on le laisse crier. Il a faim, on l'attend. Il mange à telle heure. Alors la sucette, hein, c'est supprimer cette éducation. Vous supprimez cette éducation. Alors vous avez été élevé à la sucette et toute votre vie, vous serez élevé à la sucette. Ça durera tout le temps. Il n'y aura pas d'ordre dans la vie végétative. C'est très curieux, hein, quand on réfléchit sur l'éducation des enfants. Enfin, c'est pas du tout le fait de dire à midi, on mange. À midi, j'ai faim. J'ai regardé mon heure, c'est midi, donc je dois manger. J'ai faim, mais non. C'est de mettre de l'ordre dans la vie végétative. Dans une vie qui radicalement n'est pas ordonnée. Elle est ordonnée par l'instinct. Quand j'ai faim, je mange. Chez l'animal, c'est normal. Chez le lion et la lionne, c'est normal. Quand ils ont faim, ils tuent. Vous voyez, cette loi fondamentale de la vie végétative, quand on a faim, on tue. Transportez ça du côté de l'intelligence. Et vous voyez ce qui se passe. Et vous comprenez certaines choses. Autrement, vous ne comprendrez pas. Et vous voyez que les lois de la vie végétative pénètrent dans l'intelligence. C'est terrible de voir ça. Quand l'intelligence a faim, elle tue. Il y a des idéologies qui sont comme ça. Donc, dans la vie végétative, l'acte est immanent. Et l'acte est immanent de manière telle que ma faim n'est pas en dehors de moi. Elle vient de moi, puisque c'est engendré. Et engendré, ce n'est pas sortir de moi, c'est me prolonger dans un autre être. Donc, ce n'est pas découvrir ma vraie finalité, c'est découvrir la fin de la vie végétative. C'est extraordinaire, ça. Oui. Alors, autre chose est la procréation humaine. Et ici, je regarde la procréation au niveau végétal, au niveau vie végétative. Au niveau, tout simple, l'arbre qui fructifie dans un autre arbre. Le chêne qui est source d'autres chênes. C'est la vie végétative mange sa faim. C'est le propre de la vie végétative. Donc, le point de départ et le terme sont une vie. L'alpha et l'oméga s'unissent dans une immanence parfaite et très forte. Je passe à la vie sensible. La vie sensible, elle est anarchique. C'est très curieux, c'est juste inverse. La vie végétative est conservatrice. La vie sensible, elle est anarchique. D'abord, on a cinq sens. Donc, vous avez cinq portes de sortie. 5 portes de sortie pour faire venir l'univers autre que vous en vous. Vous avez le toucher, l'odorant, l'ouïe, le goût, manger, la vue, la vie sensible est une vie premièrement diverse. Et elle est dans la diversité. On aime la diversité. Elle sera en lutte constamment contre la vie végétative. Pour me permettre de voir autre chose. Alors je vois d'abord les êtres sensibles, les êtres semblables à moi. Ceux-là ne sont pas dangereux, ils sont semblables à moi. Mais ils sont aussi quelquefois ceux qui me nuisent le plus. Donc la sensibilité sera source d'alliances sensibles et source de division. Curieux. La vie sensible, prenez le toucher, prenez la vue, quel acte. Je suis en acte quand je vois. Et dans la vision, ce que je vois demeure en moi. Le toucher, ce que je touche, demeure en moi. D'une façon très différente. Hein. Dans chaque sens, il y a quelque chose de particulier. Et je suis en contact avec l'autre. C'est dans la sensibilité que commence l'intentionnalité. J'ai la possibilité d'avoir comme une double vie, une dualité. Ma vie végétative me rappelle toujours le réel. Le beefsteak que je mange, c'est un beefsteak. C'était la similitude d'un beefsteak, en apparence, je le verrai tout de suite dans ma vie végétative. Elle a un sens du réel, la vie végétative. Je suis terriblement réaliste par la vie végétative. Tandis que ma vie sensible peut commencer à décoller. Je peux avoir des hallucinations. Et des hallucinations, je crois que ce que je vois est réel. Quand je suis dans le désert, je peux avoir des hallucinations. Vous voyez, quand je suis dans le désert, c'est-à-dire que je n'ai plus de nourriture, alors j'en invente. C'est curieux. Donc l'imagination va commencer à suppléer le réel. Je vais m'envelopper de l'imagination parce que le réel n'est plus suffisant pour ma vie sensible. Ma vie sensible désire toujours aller plus loin. Elle a quelque chose de très curieux, c'est qu'elle n'est jamais satisfaite. Nos sens ne sont jamais satisfaits. Et plus vous les développez, plus ils veulent aller loin. Un développement quasi infini. C'est beau de voir ça, de voir que la vie aime le full camp. Alors, juste l'inverse de la vie végétative. on aime de s'évader. La vie sensible est au point de départ de toutes les évasions, par la vue. Et la vue est très liée à l'imagination, au fantasme. Distinguer le point de vue de l'imagination et le point de vue de la réalité, c'est la chose la plus difficile qui soit. Aristote nous dit, c'est la chose la plus difficile. Distinguer l'imaginaire, les hallucinations, les projets qu'on se fait imaginativement. On est à côté d'un voisin qui ne nous plaît pas beaucoup, alors on imagine des tas de choses, parce qu'il est là à côté de moi, sûrement qu'il me porte malheur. Et depuis qu'il est à côté de moi, rien ne va plus. Et sûrement que tout le temps, il doit penser à moi et il doit me rejeter. On commence à imaginer. Vous voyez, l'imagination, c'est le foulecamp. C'est vouloir être autre part. Et c'est la vie sensible. La vie sensible, pour nous, s'alimente énormément d'imagination. Chez l'animal, je ne sais pas, on cherche à savoir jusqu'où un chien imagine. Il a la mémoire, parce qu'il est fidèle. Un chien est très fidèle. Et même quand son maître l'a abandonné depuis très longtemps, parti en voyage, et qu'il revient, le chien reconnaît. Il y a une mémoire. La mémoire fait partie de la vie sensible. Alors, la mémoire équilibre le foulecamp, équilibre l'invention de la vie sensible, qui aime la dispersion. Un être très sensible aime la dispersion. C'est très bien ça. Et voyez, et le monde d'aujourd'hui, la culture du monde d'aujourd'hui augmente la dispersion. C'est sûr. On a une peine énorme dans notre monde d'aujourd'hui à revenir à une intériorité. Parce que toute la culture est une culture sensible. C'est ou une culture sensible ou une culture végétative. Vous avez les requins d'un côté qui aiment de manger, de dévorer. Un requin, quand il regarde un homme, qu'est-ce qu'il pense ? À le manger. Uniquement. Et il y a des gens comme ça, quand ils voient un prochain, ils pensent qu'une seule chose, à le manger. Tant que je n'aurai pas mangé, il sera mon adversaire. Donc, il vaut mieux que je mange. C'est curieux, ces choses-là. Et on porte en nous cette vie végétative. On porte en nous cette vie sensible. Et cette vie sensible, elle me disperse. Elle aime la diversité. Elle aime de sortir de soi, d'aller de plus en plus en dehors. Vous voyez, quand on dit « les voyages forment la jeunesse », c'est parce que tout simplement, nous avons besoin d'aller autre part pour voir des choses autres. Et là, c'est la vue sensible qui appelle ça, qui appelle cette diversité. Alors, il faudrait, ce serait très intéressant, au point de vue philosophique, essayez de comprendre les cinq foulecamps. Comment l'imagination se... Oui, c'est ça. L'évasion, le foulecamp. Toute porte ouverte. C'est ça, toute porte ouverte. La clôture, oh, ça non, je ne sais pas, c'est contre. C'est contre l'ouverture, il faudrait tout le temps être ouvert à tout le monde. Et notre civilisation d'aujourd'hui, elle est comme ça. Vous voyez, parce que toutes les inventions qu'on fait, Je voyais l'autre jour quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a été notre frère pendant un certain temps, et puis qui est dans l'espace, la manière de pouvoir utiliser l'espace. Et il écrit justement cette possibilité imaginative de l'intelligence de l'homme qui veut dépasser la Terre pour pouvoir s'évader dans l'espace et communiquer grâce à cela d'une façon beaucoup plus, pas profonde, mais plus rapide. C'est plus la profondeur, hein. C'est l'extension. Voir beaucoup de choses en un rien de temps. Être en communication avec tous les êtres de la Terre et ceux qui sont au-delà de la Terre. Étendre notre champ d'investigation. L'étendre le plus qu'on peut. Qu'il soit réel, qu'il ne soit pas réel, ça n'a aucune importance. Le tout, c'est qu'il soit plus étendu. Et au bout d'un certain temps, on confond l'intentionnalité imaginative avec le réel. Tout ce que vous imaginez, c'est réel. Un enfant qui est vraiment un gosse intelligent, il confond l'imaginaire et le réel, tout le temps. Au bord de l'eau, dans le sable, il construit des tas de choses, des maisons, puis vous vous intéressez à ce qu'il vous dit, oh, viens un peu, tu vois, là, c'est ça, il vous raconte une histoire qui, pour lui, est réelle. C'est sa vie, il aime ça. Mais le sensible imaginaire est quelquefois tellement puissant qu'il s'impose à nous d'une façon telle que cet imaginaire, c'est le réel. Alors, quel est l'être en acte dans cette vision? Il y a toujours la métaphysique. Hein. Quand ce savant... Il est très spécialisé, c'est un savant. Quel est l'être en acte? C'est ce que je lui ai dit, dans un langage métaphysique, quel est l'être en acte? Alors il m'a dit, c'est l'être imaginaire. C'est le maître imaginaire qu'on fait croire comme très intelligent. Mais c'est l'être imaginaire. Développé mathématiquement, rationalisé, l'être imaginaire peut être rationalisé, il ne peut pas être la contemplation, mais rationalisé. Alors, quel être en acte pour la vie sensible? Le vivant de vie sensible, c'est une vie particulière, spéciale, qui n'est plus végétative. Alors là, j'arrive à préciser l'être intentionnel. L'intentionnel d'abord est sensible. Il est sensible de cinq manières. Et il est presque toujours lié à l'être imaginaire. Alors on a un être en acte qui est le vécu. Qui est mon vécu imaginaire, que je porte en moi. Je suis plongé dans l'entelekeia. L'être en acte réel n'existe plus. Il est chassé. Je vis entièrement dans un être que j'ai composé moi-même, que j'ai fait moi-même, que j'ai réalisé moi-même. L'entelekeia. mais même pas l'intellecueia d'Aristote. L'intellecueia, c'est-à-dire, au fond, l'être rationnel, j'ai pensé imaginativement. Un être imaginatif. La relation peut être réelle ou de raison. C'est ça qui est terrible. La relation peut être une vraie relation de raison, imaginative.